Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maëlle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Maëlle Réa, donc, qui est autrice de bande dessinée, autrice de Comme une grande, publiée aux éditions Rivage, dans la collection Virage Graphique, que j'ai l'immense bonheur de diriger, et autrice également d'Insomnie, publiée aux éditions Exemplaires. Maëlle, qui est également dessinatrice pour la presse, et que vous connaissez peut-être par le biais d'Instagram, puisque Maëlle poste régulièrement des strips sur les réseaux, et on va parler de ces publications. Maëlle, dans les Jeudis de la bande dessinée, on a à cœur d'explorer les débuts, de voir comment est-ce que, dès l'enfance, ou bien dès l'adolescence, l'envie de devenir auteur ou autrice de bande dessinée est apparue, et comment se sont faits les premiers contacts avec le monde professionnel. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle lectrice et dessinatrice tu étais enfant, adolescente? Est-ce que tu lisais beaucoup de bandes dessinées, notamment, ou de livres illustrés? Est-ce que tu dessinais déjà beaucoup? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comme ça quel a été ton lien dans l'enfance et l'adolescence au dessin et à la bande dessinée?
Alors, je vais essayer de faire court.
T'as tout ton temps.
Ok, très bien. Tout a commencé un soir de juillet. Non, c'est faux. Moi, en fait, la bande dessinée, en fait, c'est arrivé grâce à la médiathèque de ma petite ville de Saint-Chamond, à côté de Saint-Étienne. Ma mère travaillait et elle était mère célibataire, et du coup on était dans notre appart et il fallait bien s'occuper un peu, et en fait vu que je m'ennuyais, je me suis tournée vers la bibliothèque et j'ai commencé à un peu feuilleter dans le rayon BD des petits trucs sur lesquels je tombais, comme Pico Bog toutes les BD que j'avais un peu sous la main, je me suis tournée d'abord vers ça, pas vers les livres sans images finalement. Et après j'ai commencé à recopier les dessins que je voyais, parce que j'étais hyper admirative et je me disais c'est fou. Il y a des gens dont c'est le métier. D'ailleurs, on voit Pico Bog là derrière.
Ça, alors.
C'est fou.
Comme c'est bien fait.
De ça, c'est incroyable. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en plus de ça, dessiner permettait d'avoir un lien social avec les autres. Donc de se faire des potes ou des amoureuses ou des amoureux. En tout cas, tu pouvais un peu te la péter. Et du coup, j'ai commencé un peu à dessiner dans la cour de récré de plus en plus. J'ai sorti mon premier tome en CE1 d'une aventure de chat et de chien. Je sais plus, j'avais fait une micro-édition avec une copine. Et voilà, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu devenu mon identité à moi, la meuf qui dessine. Voilà.
C'est la fille qui dessine, mais petit à petit, c'est aussi la fille qui raconte des histoires. Et quand on voit, tu as cité Pico Bog, j'ai également mis une couverture d'un livre de Sampé et de Terreur Graphique, ouais. Parce que je crois que ce sont des auteurs qui sont aussi importants pour toi.
Tard, ouais.
Et ce qui les relie, ces auteurs, ces artistes, c'est aussi leur capacité à raconter le monde qui les entoure et à montrer comment est-ce que le quotidien est évidemment passionnant à partager. Comment est-ce que ça s'est arrivé la meuf qui dessine à la meuf qui raconte des histoires, ouais. Et qui observe autour d'elle tout ce qui se passe pour le retranscrire en dessin?
Alors, c'est venu en deux temps, je dirais. Dans un premier temps, en fait, je tenais des journaux un peu intimes de mon côté quand j'avais genre 13-14 ans. Et du coup, je racontais mon quotidien, mais que pour moi. Et vu que, pareil, j'avais pris ce réflexe de raconter en dessin, j'ai décidé de scénariser mes journaux intimes. Je trouvais ça plus rigolo. Et voilà, petit à petit, en fait, je suis sortie de ces journaux intimes et je me suis juste rendu compte, pareil, pour le lien social, que ça permettait de nouer des liens, de dessiner les gens, notamment au collège, de dire, regarde, j'ai dessiné la prof de maths qui est en train de se gratter le nez dans le coin de la classe, et ainsi de suite. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui m'intéressait, c'était dessiner les gens un peu comme moi. Le quotidien, l'ordinaire, les héros du quotidien, ou du moins les anti-héros, parce que j'adorais dessiner mon père et ma mère et j'adore encore faire ça. c'était ça ma matière à moi, parce qu'en plus, je viens pas d'une ville où il y a des magnifiques paysages à portée de main. C'est les gens, en fait, on est tous un peu entassés. Enfin, on était tous un peu entassés dans des HLM. C'était les gens, ma matière, en fait. Donc, voilà.
Et donc, c'est naturellement que tu t'es tournée ensuite vers des études en bande dessinée, parce qu'il y a celles et ceux qui dessinent, qui aiment raconter des histoires, mais qui mettent du temps à se dire bah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, ou bien que les parents dissuadent un petit peu en disant bah, tu dessineras à côté, mais avant cela, tu vas faire d'autres études. Toi, tu t'es tout de suite tournée vers la bande dessinée.
Oui et non, pour être honnête. En fait, j'ai eu un petit moment de perdition où j'ai voulu faire je sais même plus si je te l'avais dit j'ai voulu faire de la lingerie donc du coup j'ai fait un an en fait de bac professionnel. Pourtant en fait j'avais des bons résultats, mais je sais pas, j'ai vu le film Yves Saint Laurent et j'ai voulu me rendre pour une styliste, et donc j'ai dit non, je pars en bac pro et je vais faire voilà, de la lingerie, ce qui était très cool mais pas pour moi. Finalement j'étais très nulle. Et du coup, je me suis rendu compte que je continuais en fait là-bas à dessiner et pas coudre. Donc j'avais des mauvaises notes. C'était le principe du bac pro finalement, de coudre. La meuf qui a rien compris. Et du coup, finalement, je suis revenue en bac art appliqué après ça. Et là-bas, j'ai recommencé à faire de la BD. Et mon prof m'a dit c'est vachement sympa ce que tu fais. Tu devrais continuer et tu devrais postuler à des écoles de BD. Et j'ai postulé à une seule, la seule que j'avais bien aimée, en fait, qui s'appelle Auguste Renoir. Et j'ai été prise, trop cool. Et voilà, donc ben, après, j'ai fait ça.
Et justement, à Renoir, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris? Enfin, je veux dire, tu as appris énormément de choses, mais qu'est-ce que tu retiens de ces enseignements? J'imagine qu'il y a aussi, et il y a souvent ça dans les études d'art, il y a aussi la rencontre d'autres artistes en devenir, et on se construit aussi avec les influences des autres et avec la façon de porter un regard justement sur celles et ceux qui nous entourent. Mais on va rapidement évoquer la fin des études, puisque ça coïncide avec la publication de ta première bande dessinée. Mais qu'est-ce que pendant les études tu dirais que tu as appris et qui a été le plus important en tout cas pour toi pour la suite? Même si c'est encore récent.
C'est vrai que c'est pas si vieux, ça va, me vieillis pas. Non, je dirais plusieurs choses. Pour commencer, vraiment, ça a été plutôt de me trouver un style, parce qu'en fait, au début, je copiais beaucoup en fait, les gens que j'admirais. Et du coup, j'essayais de bien dessiner, de bien finir mes formes, de faire des beaux paysages, de tout remplir, de faire des cadrages léchés, tout ça. Mais du coup, j'essayais de me questionner sur ce vers quoi je voulais aller, ce que j'aimais, et ça te permettait d'expérimenter cette école. Donc ça, dans un premier temps. Et ensuite, je vous regarde pas du tout, je suis désolée. Elle est tellement belle que... et en fait, petit à petit aussi, ça m'a permis de discuter avec d'autres élèves et d'enlever une espèce d'anxiété qu'on a, où des fois on se trouve un peu nul, hein, on est un peu perdu sur ce qu'on veut faire. Et il y a un des anciens élèves qui me regarde en mode « oui ». Et en fait, du coup, on se supportait les uns les autres, on se donnait des conseils. Donc je pense que les profs m'ont appris des choses. Il n'y a aucun prof dans cette... Ok, c'est bon. Mais je dirais que c'est vraiment entre élèves qu'on s'est tiré vers le haut et qu'on s'est rendu compte qu'on ne cesse d'expérimenter et de se chercher, de se trouver et de se reperdre, et ainsi de suite. Donc c'est ça, surtout, les élèves.
Tu étais en dernière année quand on s'est rencontrés. On évoque encore une fois dans les jeudis de la bande dessinée les débuts, et souvent il y a cette idée du premier projet. Est-ce qu'on a présenté un dossier à un éditeur? Est-ce que ça a été... On a vu au fil des rencontres que parfois c'était on est repéré parce qu'on a participé à un concours de bande dessinée. Il y a différents concours jeunes talents, que ce soit notamment à Angoulême avec le festival qui est début le à Saint-Malo. En l'occurrence, moi j'ai découvert ton travail par Instagram, et c'est important parce qu'on va parler aussi de comment est-ce que la façon d'appréhender la création et de raconter des histoires se transforme aussi un petit peu avec les réseaux. Et je me souviens très bien avoir repéré les dessins de Maëlle et me dire il y a vraiment quelque chose, et j'adore sa capacité à raconter une histoire en une image. Mais raconter en une image, c'est pas raconter en bande dessinée, c'est pas savoir raconter une histoire, c'est pas savoir découper une histoire. Et je me souviens très bien d'un moment où je vois passer en story une planche de bande dessinée, et là je me dis oh, elle fait aussi de la bande dessinée, c'est trop bien. Et donc je t'ai écrit à ce moment-là, est-ce que tu peux nous parler de la naissance, si j'en parle c'est parce que c'est ton projet de diplôme que j'ai vu à ce moment-là qui allait devenir comme une grande, est-ce que tu peux nous parler de ce projet de diplôme déjà, ce qui vous était demandé, c'est-à-dire c'est assez conséquent à Renoir ce qui vous est demandé en fin de cursus par rapport à d'autres écoles, et comment est-ce que, ce que tu as voulu raconter avec cette histoire, et on évoquera ensuite après comment est-ce que finalement c'est devenu ta première bande dessinée publié.
Alors, en fait, c'est vrai que c'est pas si vieux et en même temps ça date, donc je dois me replonger un peu sur qu'est-ce qui a été déclencheur et tout. Je dirais que, en fait, donc à Renoir, en fait, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir un objet. On nous demandait d'avoir un objet terminé. On demande plus ça aux élèves, mais en fait, le DNMAD. À l'époque, c'était la première année. Du coup, on était le crash test et ils ne savaient pas trop quoi nous demander.
DNMAD, coup... je précise pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Diplôme National des Métiers d'Art et du Design.
Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, du coup, en fait, ils nous avaient dit de produire un objet livre qui pouvait prendre l'objet d'un album jeunesse, d'une bande dessinée et ainsi de suite. Et moi, en fait, je ne savais pas trop quoi raconter à l'origine. Et du coup, je me suis laissée un peu aller à juste dessiner des scènes coupées de trucs qui me venaient, en mode, bah, qu'est-ce que j'ai envie de raconter vu que je ne sais pas ce que je veux raconter. Et c'est là que l'ordinaire m'est revenu à nouveau, et le quotidien, puisque c'est en fait tout d'abord des scènes de ma jeunesse qui me sont venues, puis des scènes voilà, de mon adolescence. Et je me suis dit, ok, je sens qu'en fait, c'est un peu l'écriture de soi qui m'intéresse, comment on raconte des passages un peu universels de ces périodes qui m'intéressent. Mais je ne me sentais pas encore capable de me raconter avec mon propre avatar, en quelque sorte. Et du coup, j'ai pris une distance grâce à l'autofiction et j'ai créé le personnage de Marie.
Voilà. Que vous pouvez voir à l'écran.
Derrière. Et du coup, en fait, je me suis dit...
Mais qui a une mère qui ressemble beaucoup à la tienne.
Oui, qui est exactement ma mère. Je ne la dessine plus vraiment comme ça maintenant, mais en tout cas, j'ai voulu la garder comme ça. Mais moi, je ne me sentais pas capable. Notamment, j'abordais plus des thématiques, même de la découverte de ma sexualité, des troubles de santé mentale et ainsi de suite. Et je ne me sentais pas capable de me dessiner moi encore, peut-être parce que j'avais que 18 ans, 19 ans. Et du coup, j'ai créé cette espèce d'avatar-là pour prendre de la distance et j'ai joué avec l'autofiction.
Complètement, et pour raconter très rapidement, tu as pris aussi le prétexte d'un entretien d'embauche que passe Marie, justement pour relier ces différentes scènes qui arrivent à différents moments de la vie. Et donc on a au début du livre Marie qui passe un entretien d'embauche, et chaque question du recruteur va la renvoyer à un épisode de sa vie. On va explorer comme ça son enfance et son adolescence. Peut-être juste un mot, parce qu'on a parlé de ce projet de diplôme, mais il y a un premier rendu qui est attendu par l'école, c'est un mémoire, et je trouve ça intéressant parce que finalement, j'allais dire, quelque part, tu as visé juste dès le début, puisque ton objet d'étude, ton sujet d'étude, c'est quelque chose que tu explores encore aujourd'hui. C'est justement, et c'est un peu ce dont on a parlé jusqu'à présent, mais c'est le quotidien, le récit du quotidien. Encore une fois, à aucun moment, tu as dévié. On voit quelque chose de très évident, en fait, dans ce que tu racontes, c'est-à-dire Picobog, on a évoqué Sampé, Terreur graphique, le fait d'entrer en école et de choisir comme sujet de diplôme, de mémoire, ce quotidien, et d'ensuite réaliser une œuvre d'autofiction. C'est quelque chose où tu as tout de suite perçu que c'était ça qui était fait pour toi, que c'était ça que tu avais envie de raconter, et que quand tu faisais des pas de côté, en fait, ça allait
ça
pas.
Ça marchait pas du tout. Oui, des fois, j'étais un peu tentée de me lancer dans des histoires un peu what the fuck, hyper mélancoliques, un peu, je sais pas, de la science-fiction, tout ce qu'on veut, mais en fait, ça marchait pas trop. Et du coup, je me suis tournée vers un mémoire sur l'ordinaire. Et qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire, finalement ? C'était ça un peu mon intrigue. Mais du coup, j'ai commencé à étudier... des livres de, par exemple, d'Adèle Van Rett, qui a fait un essai sur l'ordinaire. Il y a aussi, dans le cinéma, je me suis intéressée à comment les cinéastes s'étaient réappropriés l'ordinaire et en avaient fait quelque chose, finalement, d'hyper complexe. Comment, finalement, l'ordinaire C'est quelque chose qu'on ne regarde plus, vu qu'il est là, tout le temps, à côté de nous. C'est quelque chose dans lequel on est englué. Et pourtant, ce qu'il a de magnifique, c'est que, en fait, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement universel. Bah justement, dedans, j'avais cité une citation de Victor Hugo, parce que la meuf, du coup, forcément, bah, dans un mémoire, on est bien obligé de faire des citations. Mais c'est vrai que c'était très vrai ce qu'il disait, en disant « Hélas, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous, insensé qui croit que je ne suis pas toi. » Et en fait, c'est ça que je trouve merveilleux dans l'ordinaire, c'est cette sensation, déjà, quand on lit un livre, de pouvoir se reconnaître et de se dire « Putain, pardon, j'ai des gros mots, mais je suis pas toute seule, quoi. J'ai l'impression que je trouve une espèce d'unité dans ce monde, surtout quand il devient de plus en plus anxiogène. On a un peu l'impression de se dépersonnaliser des fois, ou du moins de se déconnecter. Et là, ça, on se rattache, en fait. Il y a une espèce d'universalité magnifique dans des choses qui sont pourtant hyper intimes. Enfin, voilà, en fait, l'intime est extrêmement universel pour moi, et c'est ça qui est magique. Et au-delà de ça, je trouvais ça extrêmement difficile de parler de l'ordinaire, parce que vu que c'est quelque chose qu'on regarde tout le temps, on n'a pas le recul. Et c'est quelque chose qui se répète, qui peut être assez ennuyeux, finalement. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le rendre, pour l'exploiter comme de la matière. Et justement, il y avait une autre citation, mais je pourrais pas dire, mais dans mon mémoire, parce que j'ai pas révisé, je ne savais pas que tu me poserais des questions, mais on parlait du fait que dans le mémoire, il y avait quelqu'un qui parlait du fait que parfois, en fait, on parlait dans une histoire, je sais pas, on veut raconter une histoire qui se passe dans un aéroport, et on va s'attarder sur l'horaire, sur les couleurs des t-shirts, sur les chapeaux, les vestes, les bruits, ainsi de suite, et on en oublie les nouvelles du voyageur. Et en fait, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on décide de garder de l'ordinaire, qu'est-ce qu'on décide d'utiliser pour qu'il devienne pertinent. Et en fait, c'est un travail que j'essaye de faire tous les jours et que je m'entraîne à faire, et que j'espère je m'entraînerai à faire toute ma vie. Et voilà.
Et ça passe beaucoup par des carnets, par observer, ouais. Parce que pour réussir à savoir ce qu'on veut retirer de l'ordinaire, il faut être capable justement de poser un regard neuf quasiment tout le temps, et de réussir à voir et à voir et à écouter ce à côté de quoi on peut passer si on n'y prête pas attention. Et on se rend vite compte, si on fait cet exercice, ouais, qu'on a toujours des choses, en fait, qu'on aurait envie de raconter à d'autres, ou qu'on aurait envie de prendre en note, ou que ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de ta pratique quotidienne, le carnet, écouter, écrire aussi. Et c'est quelque chose, on en parlera quand on parlera davantage de technique, mais qui est caractéristique de ton travail, c'est cette capacité à être dans quelque chose de très vivant tout le temps. Et donc, c'est comment est-ce que on observe, comment est-ce qu'on croque les gens, comment est-ce qu'on réussit à retranscrire leur mouvement dans le mouvement, justement, et pas dans une attitude de pose comme on pourrait faire, ouais, quand on copie des photos, par exemple. Ça. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est très lié à la pratique du carnet et du croquis, et que ça vient qu'à force d'en faire.
Oui, c'est sûr. J'avais pas vraiment... j'ai commencé à avoir vraiment ce réflexe quand je suis arrivée à Paris, parce que dans le métro, il se passait tout le temps des trucs de fou. Quand j'étais en terrasse, il se passait tout le temps des trucs de dingue. Quand j'étais dans la rue, il se passait tout le temps des trucs que je voulais noter. Et en fait, vu que je commençais à vachement utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, ces formats courts, j'avais envie de les partager un peu pour avoir le shot de dopamine immédiat, de partager cette anecdote, quoi. Comme un journal intime, toujours. Je continuais ça. Comment dire ? Je gardais ça pour moi au début, parce que là, justement, je travaille sur un projet qui a finalement pour but de retranscrire ce que j'avais tendance à faire que pour moi, de ces carnets de croquis, de petites scénettes. Avant, bah, par exemple, dans Comme une grande, je n'osais pas encore le faire. J'étais encore dans une espèce de découpe un peu toujours dramatique, où voilà, j'essayais d'être là-dedans. Et finalement, maintenant, je tends à exploiter de plus en plus, comme tu dis, ces espèces de découpes en mouvement et jamais figées. Et que voilà, ce qui m'intéresse dans ces espèces de carnets d'études, c'est pas forcément que les morphologies soient justes, ou que les perspectives soient époustouflantes. Ce qui m'intéresse, c'est juste une attitude qui fasse que je sais pas. J'espère que ça sonnera le plus vrai possible, et ainsi de suite.
Voilà. Que ça existe, et comment est-ce qu'on retranscrit plastiquement une émotion aussi, c'est-à-dire c'est à la fois évidemment le mouvement de la personne en face de toi, mais c'est aussi le regard que tu portes sur la personne en face de toi. Est-ce que tu as ressenti en la regardant?
Oui, et puis aussi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est peut-être justement qu'est-ce qu'on garde du quotidien et de l'ordinaire. Ça peut être dans la gestuelle, mais aussi dans les mimiques, aussi dans les phrases. Moi, un de mes comptes préférés sur Instagram, si jamais vous connaissez pas, c'est Banal Jean, parce que c'est vraiment toutes ces phrases qui sont vraiment ordinaires et qu'on entend un milliard de fois, mais une fois qu'on les réécoute, en fait, elles sont, c'est le sel de la vie pour moi, toutes ces phrases qui sont sorties un peu de leur quotidien, justement. Et voilà, des phrases dans le vide, des expressions sorties de nulle part, des tocs de langage, ça, je les garde et je les note et j'adore, quoi.
Tout à l'heure, tu disais que pour Comme une grande, tu avais besoin de passer par le filtre de la fiction, de l'autofiction, en créant le personnage de Marie, qui avait beaucoup en commun avec toi, mais qui s'appelait Marie et qui était une petite brune. À quel moment est-ce que tu as commencé à t'autoriser à te représenter, à créer ton avatar? Et on voit à l'image le livre Insomnie, qui a été publié aux éditions Exemplaires. Un projet qui est né aussi quelque part finalement pendant les années d'études, puisque c'était un workshop avec Lisa Mandel qui après t'a proposé de participer à cette aventure exemplaire. On va parler de comment est-ce que finalement, de ce que ça t'a apporté aussi de la même façon que l'école, c'est-à-dire sans doute dans la production, dans l'obligation d'être sur un rythme assez important, un rythme important. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que, on voit Insomnie, on voit une jeune fille blonde sur la couverture, à partir de quel moment est-ce que tu as commencé à créer ton avatar et à quel moment tu t'es dit, mais oui, en fait, c'est ça, en fait, le véhicule de ce que j'ai envie de raconter, vu que ça passe par mon filtre, de toute façon, que j'ai envie de rire aussi des situations, et si je ris des situations et des gens, il faut aussi que je puisse rire de moi et me mettre en scène. Comment est-ce qu'on se trouve aussi graphiquement? C'est-à-dire à quel moment on se dit, parce qu'on voit bien que, effectivement, que c'est très caricatural, comment est-ce que tu as commencé
Même plus encore comme ça maintenant. Ça a encore changé. La meuf qui change tout le temps de style. Attends, parce que du coup, je me rappelle
plus. Il y a mille questions. Tu peux dire, tu t'autorisais pas avec Comme une grande. Comment t'as commencé? Et ensuite, peut-être un mot justement de l'aventure Insomnie et de ce rythme de publication en ligne qui après aboutit à la publication du livre.
Il y a Lisa Mandel qui est une dessinatrice mais qui est aussi éditrice aux éditions Exemplaires, qui est venue nous traumatiser en workshop. on devait faire un dessin par heure, une planche de BD limite toutes les heures, toutes les deux heures, il fallait pondre un truc hyper rapidement. Comment vous apprenez à dessiner vite et aller à l'essentiel. Comment ça s'est passé? Elle a vu mes dessins, elle m'a dit que c'était sympa, et puis après elle est partie, elle est rentrée chez elle. Et puis après finalement elle m'a recontactée sur les réseaux en me disant, est-ce que ça te dirait qu'on fasse une aventure exemplaire ensemble? Mais ça serait plus vraiment du strip humoristique, j'ai envie que tu développes plus l'humour, que tu développes plus le dessin rapide, propose-moi un truc. Bon, pour être honnête, le premier truc que j'ai proposé était archi nul. Une histoire d'une meuf un peu bizarre. Voilà, je voulais rester dans la fiction et elle m'a dit c'est à chier. Du coup, il n'y a pas un truc que tu as envie de me raconter, là, les trucs que tu fais sur Insta. Je commençais à me dessiner un peu, mais que sur Insta, quoi. Et du coup, elle m'a dit il n'y a pas un truc. Parce que ce qui est problématique, c'est ce qui donne matière à écrire. Y a pas un truc qui te dérange. Et moi, le fait est que je suis une grosse stressée de la vie et que je dors très mal. Elle m'a dit, on va faire une BD qui s'appelle Insomnie et tu commences. On s'en fiche, fais-moi des strips au pif et on verra ce que ça donne. Et voilà, petit à petit, j'ai commencé à publier... D'abord j'ai commencé à faire donc mon espèce d'avatar, mais en fait vu que je devais faire deux BD par semaine, sachant que j'avais d'autres choses à faire parce que j'avais d'autres commandes, il fallait faire simple. Donc je me suis dit, bah, c'est simple, ça va, j'ai une frange. À l'époque, j'étais blonde. J'ai une tête un peu avec des cernes, enfin toujours une tête un peu de lapin pris dans les phares. Donc je vais me dessiner comme ça et ça ira vite. Et elle m'a dit, parfait, ça te ressemble bien. Donc du coup, j'ai fait ça. Et j'ai utilisé la technique du noir et blanc parce que j'avais pas le temps non plus. Il fallait trouver des blagues vite. Et voilà, il fallait faire... En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, 2 strips par semaine, quand en plus on fait des études, parce que j'étais encore en études, mais j'ai arrêté après, j'ai abandonné en cours de route parce que je faisais ça et finalement ça me plaisait. En plus de ça, tu mets de ces trucs. Merci d'avoir mis les planches les plus gênantes. Et à côté de ça, en fait, on doit trouver des blagues, mais en plus les dessiner, en plus les découper, en plus les poster. Voilà, il faut trouver un style graphique qui nous force à résumer et à aller vite. Et voilà, c'est comme ça que finalement le style graphique plus épuré est né. En fait, après, je publiais 2 fois par semaine, plus des illustrations en couleur. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Si, complètement, mais puisque tu nous l'as dit, ton avatar a évolué, est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous montrer comment tu te dessines aujourd'hui?
Ok. Ça n'a pas tant changé que ça, mais j'aurais dû me faire les ongles. Oh. Bon. Mais je dirais que...
Ah ouais.
Je vais faire debout et de face, je sais pas. En fait, je commence toujours par faire une tête d'espèce de lapin pris dans les phares. J'ai toujours cette tête un peu de meuf un peu... qui sait pas trop où se foutre. Parce que même si je rigole, là, je suis extrêmement stressée d'être en face de vous. Et voilà, en fait, ce que m'avait dit Lisa à l'époque, c'était que moi, j'avais tendance à faire des espèces de traits un peu comme ça, et je faisais des espèces de vagues, machin. Elle m'a dit, non, on s'en fout, tu fais 2 points pour les yeux, ta petite tête, et tu vas vite, en fait, tu résumes, on s'en fiche, on n'a pas le temps, en fait. Elle me disait, on n'a pas le time, donc dépêche-toi, va vite. Et voilà, du coup, après, c'est comme ça que j'ai commencé à me donner des expressions quand j'étais étonnée. Mais vous voyez, en fait, je prends plus la peine vraiment de faire des traits de construction. Juste tant qu'on comprend le mouvement, en fait, et l'énergie. Bon, là, je fais n'importe quoi parce que je suis un peu en mode grand écran, ça me stresse. mais voilà, quoi. En gros, c'est comment, petit à petit, j'essaye d'aller à l'essentiel. Et donc, s'il y a une frange et qu'on reconnaît un peu un physique d'endive, bah, c'est que c'est moi.
Voilà.
Voilà.
Merci.
J'ai perdu mon bouchon.
Beaucoup.
Ça va bien.
Et on va voir, je crois que j'en ai mis quelques planches fluorescentes. On va voir aussi comment est-ce que finalement, à la fois, on sent à quel point cette expérience, j'allais dire quand tu disais l'obligation de publier 2 fois par semaine, c'est aussi un exercice qui apprend énormément et qui donne des automatismes qui sont hyper utiles par la suite, et comment en même temps tu t'es aussi affranchi de certaines choses que tu avais mises en place à cette époque. Mais ouais, en parallèle de la bande dessinée, tu disais je commençais aussi à faire des illustrations, et donc tu fais également des dessins pour la presse, notamment
Ah bah, il y a Anne qui est là-bas
pour la déferlante.
Je t'affiche.
Non, peut-être un mot moi, oui. J'avais envie que tu nous parles, parce qu'on parle de la bande dessinée, on parle depuis tout à l'heure de la façon de croquer des situations du quotidien, de comment est-ce qu'on raconte des histoires à travers la bande dessinée, et tout l'intérêt, tout l'objectif du dessin de presse, c'est de comment est-ce qu'on raconte toute une histoire en une seule image. Comment est-ce que, évidemment, on n'est pas uniquement dans de l'illustration d'un propos, en l'occurrence d'un dossier d'un journaliste, ou dans le cadre d'illustration pour un livre, par exemple, c'est pas l'illustration du texte. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans, comment est-ce que, j'allais dire comment est-ce que tu trouves tes idées, c'est un peu tout ce qu'on a dit, mais est-ce que c'est quelque chose de... Moi, je suis toujours très impressionnée quand il y a des dessinateurs et dessinatrices de presse, de cette immédiateté et de l'obligation de trouver une image sur un sujet qui n'est pas forcément le sujet qui t'inspire le plus sur le moment, et je me dis, mais comment est-ce que ça leur vient en tête? Et donc, voilà, je voulais rentrer un petit peu dans ton atelier et se dire, bah voilà, quand t'as une commande d'illustration, est-ce que tu fais... pour toi-même 40 essais avant de te dire « Ah bah ça, c'est plutôt pas mal » ou est-ce que c'est quelque chose de très immédiat et qu'est-ce qui te plaît, en fait, là-dedans aussi ?
Déjà, ce que j'aime dans le dessin de presse, c'est que t'as une espèce de... Ouais, de dopamine immédiate, de produire, en fait, et d'avoir le résultat parce que c'est vite imprimé. Donc déjà, c'est cool parce que la BD, c'est long et que souvent... T'attends 2 ans seul sur ta table à te demander si tu vas voir la lumière du jour. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et au-delà de ça, ce qui me plaît, le fait de résumer en une seule phrase, c'est le décalage, en fait. C'est... c'est comment... je sais même pas, en fait. En vrai, je vais faire genre que j'ai des techniques, mais je sais pas trop.
Non, mais c'est ce qu'il faut faire genre, ouais, et comme ça, quand on ressortira ça dans quelques années, voilà, tu diras, bah bon, j'ai dit ça.
Non, en vrai, je pense que oui, c'est toujours ce décalage un peu, sortir le poisson de son aquarium et le placer sur une voiture de course, j'en sais rien. C'est, en fait, j'adorais Sampé quand j'étais petite, parce que c'était les rares livres que j'avais chez moi. Et du coup, j'aimais aussi le New Yorker et ce genre de choses. Et en fait, j'étais toujours fascinée. Bon, des fois, je comprenais rien, mais des fois, je comprenais quand même les phrases qui étaient en dessous. Et c'était toujours ce décalage avec le réel et ce côté un peu grinçant, doux, amer. Et du coup, voilà. C'est un peu ça, mes inspirations pour ça. Et je ne sais pas trop comment je fais.
Mais c'est très bien. Et puis, il y a aussi là, cette question de la couleur, parce que... on l'a vu dans les strips que tu proposes, alors sur les strips que tu postes, dans les strips que tu postes sur Instagram, il y a de la couleur aussi, mais c'est aussi, quand je parlais de narration dans une image, il y a aussi ce que la couleur apporte, et c'est aussi un dessin forcément qui est différent, parce que t'es forcément, même si on reconnaît ton trait, évidemment, t'es dans quelque chose d'un tout petit peu moins lâché, donc c'est des pratiques, je pense, extrêmement complémentaires aussi pour toi, enfin pour toutes les personnes qui ont ces différentes pratiques.
Ouais. J'ai oublié que j'avais un micro. Oui, totalement. Totalement. J'adapte la technique après aussi même au commanditaire. Bah là, c'est ce que tu allais mettre pour le prochain.
Et là, c'était donc la déferlante.
Pour la déferlante, mais par exemple, pour le podcast Parlons Sexe, je devais... en fait, moi, de base, je ne dessinerais pas vraiment comme ça, mais vu que j'aime aussi m'adapter, parce que ça m'amuse de sortir un peu de ma zone de confort, j'avais envie de faire un truc peut-être plus... Je vais pas dire commercial tout public, mais en tout cas quelque chose qui était plus pour une cible, je crois que là c'était plus pour la cible,
c'était
adolescente, et du coup voilà, comment est-ce que je m'adapte avec les médiums, donc là c'était du numérique, comment je joue avec les couleurs pour que les choses ressortent, et là c'était plus peut-être un travail plus d'illustration graphique, mais ça me plaît parce que sinon je m'ennuie vite. Et du coup c'est des petits challenges.
Et justement, alors j'ai mis une autre illustration que vous pouvez toujours voir d'ailleurs sur les grilles
c'est fini.
Je crois que vous avez raté sur les grilles de l'hôtel de ville. Mais c'est aussi pour parler on va parler des réseaux dans un instant, mais de techniques peut-être justement, puisque tu l'as dit, enfin on a compris qu'on parlait de carnet, donc cette idée de l'observation et du carnet, donc d'avoir vraiment le papier, de sentir le stylo, ou la plume, on en parlera.
Ça reste mon truc préféré.
Voilà. Mais en l'occurrence, tu travailles aussi beaucoup sur tablette. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux outils, de comment est-ce que finalement petit à petit tu as pris des habitudes qui t'ont fait aller très très vite à la tablette, et ce plaisir, tu disais, de poster directement. Je pensais, je discutais récemment avec une autrice qui s'appelle Cécile Coulon, et qui disait, moi j'écris des poèmes et ma règle c'est que je les poste avant de les avoir relus, parce que justement j'ai pas envie de le réfléchir trop, et j'ai envie que ce soit quelque chose de très direct avec les gens. On en a déjà parlé ensemble de comment est-ce que tu croques des choses, et comment est-ce que il y a l'envie, on voit que tu disais je m'ennuie vite, il y a l'envie que ce soit aussi rapide et qu'il y ait quelque chose d'immédiat qui ressorte. C'est ce que te permet l'utilisation du numérique. Est-ce que tu peux nous parler comme ça de ce que tu aimes dans le numérique, dans justement peut-être cette immédiateté? Est-ce que tu aimes retrouver aussi avec une pratique plus traditionnelle?
Après le numérique, vraiment aussi ce qui m'a plu, c'était d'abord déjà vis-à-vis d'Insomnie. En fait, j'avais pris un réflexe et je pense que c'est devenu autant une habitude qu'une prison parce que je me disais mais j'arriverai plus jamais à dessiner sur papier. J'étais là, genre j'essayais de zoomer comme ça ma page et j'étais là, putain, ça marche pas. Et s'il y a des dessinateurs ici, je suis sûre que vous le faites si vous travaillez au numérique. voilà. Mais voilà. Et puis après, au-delà de ça, c'est juste que... Ouais, vu que je cherchais à aller à l'immédiat, en fait, on met une note de couleur pour marquer son personnage et puis c'est bon, quoi. Voilà comment je fais ressortir en quelques notes, en quelques touches. Et puis aussi quand même, vu que c'était beaucoup pour les réseaux, il y a ce truc de RVB, CMJN. Pour ceux qui ne savent pas, c'est donc... Il y a d'un côté les couleurs pour l'impression et de l'autre, il y avait aussi donc les couleurs pour le numérique. Et donc, ça me permettait d'avoir déjà des couleurs vives, mais qui sont pour les réseaux. En fait, je sais pas, je pensais pas en papier, je pensais tout le temps en numérique. Et du coup, ça me permettait déjà d'avoir adapté mon médium au fait que ça soit regardé sur smartphone. Et ça permettait une qualité de lecture et puis il n'y a pas à scanner, tout ça. Donc, voilà. Et maintenant... C'est l'inverse. Je commence à me dire que j'ai envie peut-être de sortir de ça et de me lancer à voilà, l'encre de Chine, la plume. En fait, j'ai eu la chance de discuter avec Catherine Meurice et même Marion Montaigne ces derniers temps qui m'ont dit « Allez, prends la plume, bouge tes fesses, sors de ta tablette, machin. » Et donc, je commence à retourner... à l'âge de pierre et à me remettre en fait à la plume et je réalise que ça modifie à nouveau mon dessin donc je vais encore changer mais voilà, j'aime en fait ce petit bruit, ce petit ronron agréable et comment ça force à nouveau à aller à l'essentiel mais autrement parce qu'en fait en fait c'est toi qui te plie à la plume, c'est pas la plume qui se plie à toi, vous pourrez le marquer sur un t-shirt
dans un mémoire, ça apparaîtra.
Voilà. Mais voilà, donc finalement je commence à aimer, mais quand même pour l'Insta, ça est toujours numérique.
Oui, et puis il y a quand même aussi la tablette, il y a la facilité à l'utiliser un peu partout. C'est-à-dire qu'on a vu sur ta page aussi. Instagram des croquis de trajets en train, on reconnaît les couleurs du Ouigo. C'est quelque chose que tu peux plus difficilement faire à la plume. Enfin, tu peux sortir tes encres et tes plumes dans un train, mais il y a quand même quelque chose qui permet, de tenir registre, mais comme le permet un carnet, mais d'avoir effectivement ce partage immédiat après sur les réseaux.
Oui, parce qu'en fait, j'avais pris l'habitude, par exemple, dans les Ouigo, de toujours pas mettre mes AirPods ou alors d'enlever le son. Et du coup, j'écoutais les gens. Je dessinais pendant... oui, je sais, c'est un peu fourbe. Et oh, ça va. Et ensuite,
en fait, de la matière.
Ça m'occupait et vu que j'avais souvent 2 ou 3 heures de train, ensuite je le postais immédiatement dans le train, en fait. Et du coup, c'était direct et j'avais fait. Je sais pas, j'avais la sensation d'avoir accompli un truc dans mon trajet. Sinon, je savais qu'il fallait que je rentre chez moi, mais le temps que je rentre chez moi, je me serais dit que c'était une idée de merde. Après, je me dirais qu'il faut que je change les couleurs et ainsi de suite. Et du coup, je sais pas. La tablette, c'est un truc qui fait que, bam, immédiatement, je Puis même, j'adore quoi, juste discuter avec les gens comme ça, d'avoir cette espèce d'échange, c'est trop bien.
Mais tu parlais des échanges avec les gens qui sur place te voient dessiner, mais c'est aussi les échanges avec les personnes qui te suivent sur les réseaux. C'est aussi ça, c'est-à-dire c'est l'obligation quelque part de poster vite. Comme tu dis, une fois que c'est posté, tu ne vas pas le reprendre une fois chez toi pour reprendre le strip. Donc c'est quelque part un truc qui, dans la façon même de raconter, t'oblige à certaines choses. Mais c'est aussi, j'allais dire, des retours immédiats. C'est-à-dire qu'effectivement, une bande dessinée, tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans parfois sur une bande dessinée, il faut attendre d'avoir les retours des lectrices et des lecteurs en librairie. C'est aussi ça qui te plaît dans le fait de créer pour les réseaux et de poster des choses. C'est comment est-ce que, en temps réel, en fait, on redonne du sens à ce qu'on fait. Parce que j'imagine qu'on sait pourquoi on fait les choses, mais que parfois, quand on est seul sur sa feuille à dessin ou sur sa tablette, on est seul face à son dessin. Alors que d'un seul coup, on a le retour des gens, on fait ah ouais, ok, ça les touche. Donc je sais pourquoi aussi je le fais.
Au-delà du plaisir de dessiner. Bon, après, on n'a pas toujours que des retours sympas, hein, parce que c'est Instagram, donc voilà. Mais en fait, vu que moi, à l'origine, vu que je vous ai raconté un peu toute ma vie, et je vous ai dit que c'était pour me faire des amis, ben, en fait, c'était aussi pour le lien social, mine de rien, même si maintenant, c'est pour l'amour du dessin, bien évidemment, je rigole. Mais quand même... Je suis pas le genre de dessinateur qui va passer des semaines enfermé dans sa chambre, ce qui est très bien aussi, mais voilà, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est dessiner le social, dessiner les gens et créer du lien avec les gens. Et du coup, ouais, c'est ça, en fait, c'est d'avoir des retours et puis d'échanger aussi avec d'autres dessinateurs... et même juste les lecteurs. Et puis même en fait en librairie, ben tu te dis on a des retours en librairie, mais pas tant que ça. Enfin, à moins que je me mette comme ça là, derrière les rayons en mode il a l'air de rire là ou pas. Souvent on les a pas tant que ça. On a des retours de la presse et ainsi de suite. Il y a des gens qui nous écrivent, mais il y a un truc informel que j'aime bien. Voilà.
Et peut-être, et je vais vous laisser la parole dans quelques instants parce que vous avez peut-être vous aussi des questions pour Maëlle. Un mot, puisqu'on l'a abordé très rapidement, de ce sur quoi tu travailles actuellement, oui. Justement avec cette idée d'avoir un retour à la plume, d'avoir... Non, mais même de, justement de cette réflexion sur comment est-ce que tu continues à explorer tout ce qu'on vient de raconter. En fait, je te demande de le raconter un tout petit peu parce qu'en fait, c'est très logique par rapport à tout ce qu'on a raconté et de comment est-ce que c'est un champ infini en fait d'exploration et que évidemment qu'il y a mille façons de raconter l'ordinaire, le quotidien.
Oui. Et ben, alors, je peux dire mes prochains projets, du coup. Bah alors, donc, toujours pour Virage Graphique, je travaille. Donc, cette fois-ci, j'ai décidé d'arrêter de faire mes croquis que pour moi. Et du coup, je vais sortir un projet en fait, où j'ai décidé de me poser dans tous les cafés de Paris et au-delà. Non, pas tous les cafés de Paris, mais en tout cas plein de cafés dans Paris et au-delà. Voilà, et écouter, et observer et retranscrire en fait ce que j'ai entendu, vu et ainsi de suite. Et donc je vais me mettre en scène aussi un peu parce qu'en fait on part d'un point qui est toujours, donc cette fois-ci, mon avatar et le fait que ben, j'avais des troubles anxieux et en fait ma psy m'a dit voilà, vous allez vous concentrer sur les gens. En fait, je suis toujours ramenée à ça, finalement, à regarder les gens, à écouter. Et du coup, on voit ma psy qui dit « Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. » C'est que j'arrivais pas à rester assise plus d'une minute sur une chaise pendant un temps. Et donc, en fait, il fallait que je me pose et que j'apprenne à pas entendre, mais vraiment écouter ce que les gens disent, me concentrer sur ce qu'ils racontent. Et du coup, bah voilà, c'est un peu ce que ça raconte. Et à côté de ça, je travaille sur un tout autre projet, mais qui est aussi quand même sur la vie, la bande dessinée du réel. Et cette fois-ci, c'est plus le travail de témoignage. Et donc, cette fois-ci, c'est plus donc avec l'association AIDS et sur l'histoire du sida. Pareil, en fait, c'est quand même les petites gens, je dirais, qui racontent leur parcours de vie à eux et leur quotidien à eux, quoi. Toujours. Voilà. Je sais pas si j'ai bien teasé mes trucs, mais en tout cas, voilà.
Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Maëlle ou une réflexion à partager ou...
Bonjour, moi je vous suis sur Instagram et j'aime beaucoup notamment vos petits strips, des choses que vous avez entendues dans les cafés. Enfin, à chaque fois je me dis, ah, mais qu'est-ce qu'elle est forte, c'est super drôle.
Oh merci,
et c'est gentil. Donc je suis ravie de voir que vous avez en sortir un album complet. Ah. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est vos petites, on en a vu un petit peu d'ailleurs là, les petites interviews des ados qui oui. parlent. Et alors ça, je voulais savoir dans quel cadre est-ce que vous avez pu faire ça. Et ça aussi c'est assez super, mais c'est aussi super intime et je voulais savoir... voilà, c'était, enfin, ou pas précisément, mais dans quel cadre vous avez été invitée
Alors en fait, j'avais été invitée pour animer des ateliers en fait on débattait avec des jeunes, une maison des jeunes à Montrouge. Et en fait, à la fin, il y avait, oui c'est ça, hein, il y avait un débat en fait. avec les adolescents. Et en fait, je leur ai posé des petites questions, mais ensuite, je les ai surtout laissés débattre et j'ai tout enregistré, ce qu'ils ont dit. Donc, en fait, tout ce qui est marqué là, par contre, j'ai vraiment rien rescénarisé. C'est ce qui a été dit. C'est pour le coup, là, j'avoue, j'ai pas trop de mérite parce que vraiment, j'ai pas éteint mon micro. Non, c'est bon. J'ai vraiment juste repris toutes les phrases. Et voilà, donc en fait, juste après, je devais rendre compte pour une espèce de mini-expo suite à ces ateliers où on parlait autour des violences faites aux femmes. Voilà, j'ai retranscrit leur dialogue pour qu'ils puissent se voir. Mais ça m'a plu énormément et je me suis dit que probablement que je le referais, peut-être même plus de fois que... Enfin, peut-être que je le referai beaucoup un jour, j'en sais rien, parce que c'est vraiment cette matière-là qui me plaît. Et même travailler en enregistrement, par exemple pour le projet avec Ed, c'est des enregistrements en fait, et aussi des vidéos, mais vraiment retranscrire les mimiques, ça m'intéresse aussi. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est bon.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose où, par rapport à ton travail, comme tu l'as dit, c'est très ancré dans le quotidien. Donc, c'est vrai que ces ateliers-là, qui sont, sont extraordinaires pour les jeunes qui y participent, parce qu'il y a quand même quelque chose, l'idée de l'exposition, c'est que ça puisse mêler à la fois les productions de Maëlle et d'une autre dessinatrice qui avait, elle aussi, fait des ateliers aux créations des jeunes pour qu'il y ait quelque chose qui soit de quelque chose vraiment de partagé. C'est-à-dire que les autrices sont là pour faire des ateliers de bande dessinée, eux vont faire des bandes dessinées et ils vont retrouver leur création avec les créations aussi des autrices qui les ont accompagnées. C'était l'idée de faire ensemble et de s'ancrer dans quelque chose du quotidien et de se dire aussi pour les jeunes qui participent à ces ateliers, mais en fait dire, c'est possible aussi de créer, c'est-à-dire c'est toujours formidable de rencontrer une autrice ou un auteur confirmé qui a énormément publié. D'un seul coup il y a autre chose qui se crée quand ils sont avec une autrice ou un auteur qui a quelques années de plus qu'eux et où il y a quelque chose de vraiment de l'ordre de l'échange.
Et aussi ce qui me plaît en fait dans la BD et dans le dessin, c'est que tout est vrai mais tout est faux en fait, et du coup ce qui me plaît c'est que par exemple pour des thématiques qui sont sensibles même comme celle-ci ou même juste de donner des voix à des gens à qui on donne peut-être pas la parole ou pas de crédit ou en tout cas dont les voix sortiraient pas de cette maison des jeunes par exemple, et ben le dessin permet de prendre une distance et de donner une liberté qu'on pourrait pas avoir si je m'étais juste dit je vais en faire une mini vidéo TikTok où je les filme et voilà, c'est un peu
et puis il y a un rapport très doux aussi, c'est-à-dire que, et c'est ce que raconte beaucoup Mathieu Sapin quand il racontait ses débuts en BD reportage BD d'observation, c'est qu'il y a quand même quelque chose où les gens, quand ils voient quelqu'un avec un carnet, c'est pas la même chose que d'avoir une caméra, de filmer même si c'est leur mot, d'un seul coup il y a le filtre.
Ça devient de la fiction presque en fait, c'est ça.
Mais c'est forcément de la fiction, la retranscription du réel, parce que c'est qu'est-ce qu'on choisit du réel. Enfin voilà, c'est toujours la même chose, dans le café ça va être la phrase que t'as choisi de retenir de tout ce qui c'est dit, donc c'est forcément quelque chose qui est, il y a un regard d'autrice et d'auteur derrière toujours.
Ah mais c'est ça, et en fait ce qui me plaît c'est de venir avant d'être invitée à rencontrer des jeunes, à faire des ateliers, à garder cette dimension aussi de rencontre et en tout cas social c'est ça ma matière et c'est pas pour raconter ma vie mais j'avais déménagé à un moment dans un trou paumé mais du coup je croisais plus personne et en fait je me suis sentie super mal, j'étais en mode je me rends compte que vraiment ce qui m'intéresse c'est aller vers les gens quoi. Vers les gens et encore plus ceux à qui on donne pas la parole. Ça, c'est vraiment mon kiff total, quoi. Donc, voilà.
Est-ce que, on parle de parole, est-ce que l'une ou l'un d'entre vous veut prendre la parole ? Pas de questions pour Maëlle ? Non ? Est-ce que tu nous referais un petit dessin avant de nous raconter ce que vont faire celles et ceux qui sont inscrits à l'atelier ?
Je sais pas quoi dessiner, mais
quelqu'un.
Tu m'as déjà martyrisée avec.
Pourrait.
Je peux me dessiner ma mini moi qui pensait que dessinateur c'était fou comme métier. Non, je sais pas. J'ai aucune idée. Je sais pas.
Tu vas me dessiner un cheval.
Ah ouais, putain. qu'est-ce que je pourrais... Comment je pourrais dessiner ça? Bon, allez.
Que les dessinateurs comprendront, je pense. Voilà.
Merci.
C'est très stressant de dessiner en direct, donc soyez gentils.
Non, mais c'est toujours génial de voir dessiner en direct. Peut-être juste un dernier mot, puisqu'il nous reste quelques minutes. Un dernier mot, on évoquait les rencontres à l'école et leur importance. Un mot de l'importance aussi du fait de partager un atelier. Tu es en atelier avec d'autres dessinateurs et dessinatrices. De la même façon, tu disais, je ne fais pas partie de celles et ceux qui aiment rester chez elles, oui. Enfermées. Qu'est-ce que le fait de partager un atelier avec d'autres artistes, pour certains beaucoup plus expérimentés, t'apporte dans la création? Tu évoquais le fait d'avoir échangé avec Catherine Meurice, avec Marion Montaigne, on voit à quel point c'est important, et c'est quelque chose qui a beaucoup dans la bande dessinée, ce truc quand même de partage, de camaraderie qui est lié aussi à la dimension artisanale, aussi au fait de partager des outils, de partager des techniques. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être aujourd'hui en atelier, et de quelle façon est-ce que ça nourrit ton propre travail?
Eh bien, déjà, par rapport à l'outil, quand je me suis dit que je me remettrais à la plume, déjà, du coup, j'ai pu avoir des conseils de mes collègues qui m'ont dit « Tiens, je te prête une plume, tu passes l'après-midi à faire ça, on verra si c'est moche. » Enfin, voilà. Aussi, c'est par rapport aux conseils qu'on peut avoir. En fait, ils sont tous plus âgés que moi. Et ils ont tous au moins, 5 livres à leur actif. Actif à part Marguerite Boutrolle, mais sinon la plupart ont déjà plein de livres à leur actif, et du coup c'est d'avoir des conseils aussi sur qu'est-ce qui est bon de signer, de ne pas signer, qu'est-ce qui est bon de faire, de pas faire, ainsi de suite. Donc ça déjà c'est un soutien énorme. Et au-delà de ça, moi je dirais souvent quand même les dessinateurs, il y a eu beaucoup de moments de doute et de solitude quand on fait des BD, et il y a je sais pas, un quart du temps où on pense qu'on va abandonner, un quart du temps où on pense qu'on est des génies, un quart du temps, enfin en fait on passe de génie, je suis trop nulle, je suis trop forte, enfin voilà. Et du coup juste d'apporter un recul grâce à ses collègues, montrer et aussi qu'ils te disent quand c'est à chier, c'est bien, enfin en tout cas que là vraiment Maëlle tu fais n'importe quoi, tu te gourres, donc voilà, ça c'est cool, ça apporte du recul. Et puis c'est juste comment dire, ça permet d'avoir une vie de bureau aussi, parce qu'on peut être un peu coupé du monde quand on est dessinateur, et du coup voilà, il y a un esprit de camaraderie, on mange ensemble les midis et ça c'est trop bien. Voilà.
Merci beaucoup
Maëlle. Merci à toi, merci à vous.
Merci infiniment à vous toutes et tous d'être venus ce soir, et puis dans quelques instants ce sera l'atelier pour celles et ceux qui se sont inscrits.
Merci.
Alors juste un petit mot rapide avant de vous laisser passer à l'atelier. Déjà merci à toutes les deux, c'était passionnant. Je vous ai laissé des petits programmes de la BD à tous les étages en bout de table. N'hésitez pas à les prendre, vous allez retrouver toute la programmation, les expositions. Et notamment, vous retrouverez derrière moi la programmation de la BD hors les cases, avec toutes les manifestations qui vont avoir lieu autour des expositions bande dessinée. Pour nous, on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un autre jeudi de la BD au même endroit, à la même heure, avec Zéphyr cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à venir. Et enfin, dernière info pour celles et ceux qui souhaiteraient être tenus au courant du reste de la programmation par mail, nous avons une petite newsletter, donc n'hésitez pas à venir me voir pour inscrire votre mail à l'intérieur si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse passer à l'atelier. Merci beaucoup.